Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Julie Longy. Elle est consultante en lactation IBCLC et se situe en Charente-Maritime. C'était elle que je voulais spécifiquement interroger pour cet épisode, car le sujet lui-même est très spécifique. On va parler des fentes labiopalatines. C'est une malformation faciale qui peut prendre différentes formes, atteint de la lèvre au palais de votre bébé de façon plus ou moins importante. Et vous l'imaginez bien, ce n'est pas le genre de chose qui vous promet un allaitement serein. C'est tout de même un bébé sur 700 qui naît avec une fente labiopalatine, et par leur sensibilité au niveau ORL, ces bébés auraient d'autant plus besoin de lait maternel pour les aider à se protéger des infections. Alors j'ai voulu tout savoir sur le sujet, et c'est Julie Longy que j'ai choisie car elle est très renseignée et a accompagné de nombreuses familles autour de cette problématique. Alors comment on fait pour allaiter un bébé avec une fente labiopalatine? Quelle est la prise en charge que ces bébés vont avoir au niveau médical? À quelles difficultés est-on confronté pour allaiter et comment y remédier? Eh bien c'est parti pour ce nouvel épisode expert, bienvenue donc à Julie pour cette première fois pour elle dans Milkshaker. Je souhaite une belle écoute. Salut Julie, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour Charlotte.
Alors Julie, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tu connais très bien, on va parler des fentes labiopalatines et de leur importance dans l'allaitement, de l'incidence que ça a et de comment je peux m'en sortir pour allaiter mon bébé si jamais il présente une fente labiopalatine. La première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fente labiopalatine? Est-ce qu'il y en a différents types, etc. Et combien de personnes ça touche?
Alors déjà, une fente labiopalatine se forme au moment de la grossesse, à peu près entre 5 et 7 semaines de grossesse, au moment où le visage du bébé va se fabriquer, où il y a une fusion au niveau des bourgeons du visage. Et à certains endroits, ça ne va pas s'accoler, ça ne va pas se fusionner en fait.
D'accord.
Donc, il existe effectivement différents types de fentes. Donc, il y a les fentes labiales, les plus simples en fait, qui vont concerner uniquement la lèvre. Parfois, elles peuvent concerner aussi la base du nez. C'est pour ça qu'on peut des fois observer une l'aile du nez qui peut être légèrement un petit peu aplatie. Elle peut être simple elle peut être symétrique ou asymétrique. Voilà.
Et en fait, c'est un endroit qui ne se referme pas, c'est ça? C'est un endroit du palais
qui aurait dû vraiment fusionner, s'accoler, et ça ne s'est pas fait.
D'accord. Oui, parce qu'en fait, votre palais, l'os qui forme le palais est en fait c'est deux os différents et qui viennent se coller ou pas se coller. Mais là, ça peut être au niveau central, comme ça peut être aussi décalé d'un côté ou de l'autre, c'est ça ?
Exactement. Exactement, okay. Tout à fait. En fait, c'est une absence de fusion au moment où le visage va venir se
reformer.
Former.
Très bien. Exactement. Ok, oui, donc ça, c'est de l'embryologie. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais...
Donc, il y a les fentes labiales donc, qui vont toucher le nez et la lèvre, ou parfois, c'est que la lèvre, ou parfois, c'est la lèvre et le nez. Donc, il y a les fentes labiales maxillaires, c'est-à-dire qu'elles vont toucher le nez, la lèvre et le maxillaire, donc la gencive.
Okay.
Donc là encore, ça peut être simple que d'un seul côté ou alors des deux côtés.
Ah, on peut en avoir des deux côtés en même temps.
Tout à fait.
D'accord.
Des deux côtés. Après, on a les fentes labio-maxillo-palatines, donc là qui vont toucher la lèvre, la base du nez en général, le maxillaire et le palais.
Ouais, et le palatin. Ouais, ok, très bien. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est d'avant en arrière. Les fentes de lèvre touchent juste la lèvre, le nez. Ensuite, ça se diffuse en arrière, ça va sur le maxillaire. Et le palatin, c'est un os qui est encore en arrière du maxillaire, qui est l'os qui forme la plupart
Exactement.
Du palais. Le palatin est encore un petit bout derrière. Et donc, ça peut aller jusqu'au palais mou, qui est loin dans la bouche, c'est ça ? Ok,
Exactement.
Très bien.
Et après, on a les dernières fentes, les fentes palatines ou les fentes vélaires, parce qu'on peut avoir juste une fente au niveau du voile du palais.
D'accord, donc sur le palais mou, justement.
Tout à fait. Et après, la plus petite des fentes, c'est la luette bifide. C'est-à-dire que l'aluette, on voit, on a l'impression, et des fois, il y a des personnes qui sont plus âgées qui disent « Ah, mais moi, je suis née, j'avais deux luettes. » En fait, c'est pas qu'il y en avait deux, c'est qu'elles ne s'étaient pas collées, en fait.
Ouais, et celle-ci n'est pas gênante, par contre.
Non.
Non. Ok. Non,
alors après, au niveau de la fréquence, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, puisque en France, il y aura un bébé sur 700 qui va naître avec cette malformation. Sachant que, alors au niveau de la fréquence des différents types de fentes, on va retrouver, il y a 25% à peu près des fentes qui vont être labiales. Mmh. 50% des fentes, elles vont être labio-maxillo-palatines.
Okay.
Et 25% qui vont concerner que le palais.
D'accord, ok, très bien.
Voilà.
Okay.
Et après, il y a des petites disparités dans les types de fentes avec garçons ou filles.
Ouais, après, on rentre dans des détails hyper techniques, j'imagine, qui ne sont peut-être pas indispensables à la compréhension maintenant. Est-ce qu'il y a une origine qu'on connaît à ces fentes ?
Alors, même encore aujourd'hui, on ne sait pas trop parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent en jeu. Donc, notamment, il y a les problèmes environnementaux, il peut y avoir les traitements médicamenteux, le tabac, l'alcool, le côté génétique aussi. Il y a plein de choses qui interviennent. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à vraiment identifier précisément. C'est vraiment plusieurs facteurs, quoi.
Ok, très bien. Ouais, donc c'est difficile à déterminer.
Et c'est ça qui peut être un petit peu difficile pour les parents, en fait, pour accepter, accueillir la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de... On ne peut pas identifier.
Ouais, de raison. Je comprends.
Des fois, ça peut être un petit peu compliqué pour l'acceptation, en fait.
Ok. Et alors du coup, j'apprends ça pendant la grossesse, j'imagine que ça devient assez rare qu'on l'apprenne à la naissance avec toutes les échos T1, T2, T3.
Il y en a encore qu'on apprend à la naissance, notamment celles qui concernent vraiment que le palais,
oui.
Parce qu'on ne peut pas bien voir, c'est rare quand même, mais ça arrive encore un petit peu.
Ok, si je l'apprends pendant ma grossesse et que... j'ai un projet d'allaitement. Qu'est-ce que déjà je peux me dire à ce moment-là et qu'est-ce que je peux mettre en place pendant ma grossesse pour me préparer ?
Alors déjà, ce qui va être intéressant, si effectivement la maman avait un projet d'allaitement, c'est pas de remettre en question son projet d'allaitement, évidemment, même si ce sera forcément un allaitement qui sera un petit peu différent, puisqu'il y aura des problématiques qui vont être très spécifiques à ces bébés-là, en fait, finalement. Mais ça va être de se préparer à l'allaitement pour justement être beaucoup plus à l'aise à l'arrivée du bébé et maîtriser un petit peu plus le démarrage d'allaitement.
D'accord.
même s'il y a encore des professionnels qui déconseillent un petit peu l'allaitement parce que ça va nécessiter beaucoup d'adaptation, ça va être un allaitement un petit peu différent. Et des fois, ben, les mamans sont un peu découragées parce qu'elles disent « Oh là là, avec les interventions, ça va être compliqué, tu vas être fatiguée, etc. » L'allaitement encore plus, alors pour tous les bébés, l'allaitement est formidable, mais encore plus pour ces bébés-là qui peuvent être un petit peu plus sensibles aux pathologies de la sphère ORL du fait du fonctionnement.
D'accord.
Donc, ils sont sujets à plus d'otite, plus de rhinite, de choses comme ça.
Oui.
Donc, il y a une raison supplémentaire à allaiter.
Ces
enfants, quoi. Ouais.
Ouais, je comprends.
Donc, ben, ça va être de consulter une consultante. Hein.
Bah oui, tout simplement. Est-ce que vous êtes toutes formées aux histoires de fentes palatines?
Alors, il n'y a pas de formation. La thématique des fentes labio-palatines, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu en formation de base. Mais après, comme plein de professionnels des maternités, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont jamais vu d'enfants avec cette problématique-là. Donc, ben, comme toute nouveauté, des fois, on peut être un petit peu moins à l'aise. D'accord. Avec le sujet. Après, ben, lorsqu'on est moins à l'aise avec ce sujet, on peut proposer aux parents d'aller consulter des consultantes qui sont plus à l'aise avec la thématique et qui sont à même d'aider, d'accompagner les parents.
Ouais. Oui, et puis quitte à avoir deux personnes sur le
exactement,
sujet.
Exactement, une personne en physique, par exemple. Moi, j'ai des fois des mamans, je pense à une maman en particulier en Bretagne. Mmh. Elle a sa consultante en physique en Bretagne. Et pour cette problématique-là, on s'est vu en visio. Donc, il y a des choses qui peuvent tout à fait s'organiser. Voilà. Le tout, c'est que si effectivement la consultante se sent pas à l'aise avec la thématique, faut pas qu'elle hésite à orienter.
Oui, il faut référer, bien sûr.
À orienter.
Ok, donc quelles conséquences ça va avoir sur la succion du coup de mon bébé et sur l'allaitement quand mon bébé présente une fente labio-palatine?
Alors déjà, par rapport les fentes qui vont poser presque le moins de problèmes, ça va être les fentes labiales, hein, parce que même si l'étanchéité va pas être à 100% au niveau de la prise du sein, globalement, ils se débrouillent hyper bien, les bébés, donc voilà, ça va pas trop poser de problème. Pareil pour un bébé qui va avoir une luette bifide, oui, ou même une petite fente sur le voile, c'est, grosso modo, c'est pas ces bébés-là qui vont poser souci. Ce qui va être un petit peu délicat, c'est quand il y a atteinte au niveau de la gencive, au niveau du maxillaire, au niveau de la lèvre et au niveau du palais. Mmh. Parce que là, on va avoir un défaut déjà de au niveau de la prise du sein, du maintien en bouche. Mmh. Et puis forcément que le vide qui est nécessaire pour pouvoir obtenir du lait, et ben, du fait qu'il y ait une communication entre la bouche et le nez, et ben, on perd en efficacité.
Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si on l'a bien précisé au démarrage, mais le fait que ça ne se referme pas au niveau du palais, juste au-dessus du palais, l'os du palais, les deux os se referment l'un et l'autre, et juste au-dessus, c'est la cavité nasale, en fait. Donc, du coup, si jamais c'est pas refermé, ça veut dire qu'il y a communication entre les deux, et les bébés, quand ils têtent, en fait, font un vide d'air, ils font une dépression en fond de bouche pour que ça fonctionne bien. Et donc là, la dépression, en fait, elle est impossible à faire dans la mesure où où il y a communication avec la cavité nasale. C'est bien dit si je le dis comme ça ?
Exactement, c'est parfait. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sera moins optimal du fait de la morphologie en fait du bébé. Mais après, c'est pas parce que c'est moins optimal que c'est impossible.
Tout à fait.
Et qu'il ne faut pas le faire.
Ouais.
Donc voilà, parce que y a plein de... Donc ça, c'est vraiment des... on va être vraiment dans le cas par cas.
Bah oui, parce que fonction de la fente...
Ouais.
Ouais, bien sûr. Donc du coup, ça va être l'étanchéité, qui va peut-être difficilement se faire aussi au niveau de la lèvre, si je comprends bien. L'aspiration, la dépression dont on parlait.
Exactement.
Qu'est-ce que ça peut donner d'autre comme gêne au bébé?
Après, parfois, on peut avoir un petit peu de lait qui passe un petit peu dans le nez.
Ouais.
Mais des fois, parce que si le bébé a une super fonction de langue, mm-hmm, des fois, il n'y a pas du tout de fuite dans le nez, quoi.
Oui.
Surtout au début de l'allaitement, ou même, c'est rare. Ça peut arriver quand, par exemple, on rallonge le bébé, que ça remonte un petit peu, ça revienne un petit peu dans les voies nasales, mais c'est pas...
Est-ce que ça lui demande plus d'efforts à un bébé qui a une fente labio-palatine et donc une communication, même s'il n'a pas de suite et que, bon, disons, la maman a assez de lait, il s'en sort et tout, est-ce que c'est quand même des bébés qui vont avoir plus de mal à téter, qui vont plus fatiguer?
Oui, quand même. Parce que comme ils ne sont pas... c'est-à-dire que ça peut faire des tétés un petit peu à rallonge. C'est pour ça que l'idée derrière est de voir quelqu'un en amont pour préparer cet allaitement, avoir le bon matériel. Je pense notamment à un tire-lait. C'est-à-dire que la maman, elle peut déjà réserver son tire-lait. Elle part à la maternité avec son tire-lait sous le bras pour pouvoir être opérationnelle dès le départ. Et l'idée, ça va être de mettre la maman en hyperlactation pour que au moindre effort, le bébé obtienne facilement du lait. En fait, ça va être vraiment ça le challenge. C'est de trouver en fait une position d'allaitement, une posture dans l'allaitement qui permette au bébé d'obtenir tout le lait dont il a besoin en moins d'efforts possible.
D'accord, oui, parce que de toute façon, le fait de ne pas pouvoir faire cette dépression va quand même le rendre moins efficace. C'est-à-dire qu'on peut avoir une belle fonction de langue, mais le fait de ne pas pouvoir faire la dépression en arrière, en fond de bouche, ça va le rendre moins efficace. Donc de l'autre côté, comme on sait que à succion pas très efficace, on a en général des lactations qui tombent un petit peu. Alors on va lancer la maman de l'autre côté, voilà, sur une grosse lactation pour compenser ça.
Okay. Et puis avec, on peut parler aussi de la compression du sein qui aide vraiment, vraiment justement les bébés qui ont des petits soustitutions à là encore. C'est-à-dire que ça permet vraiment au bébé d'obtenir facilement du lait, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que ces premières tétées, ces premières semaines, la mère, elle a besoin de prendre confiance en elle, peut-être même encore plus que dans une situation d'allaitement classique, puisque y a la peur aussi des interventions, il y a tout un contexte émotionnel qui est un petit peu différent. Et puis le contexte aussi de naissance, hein, tout simplement. Il y a tout un contexte qui peut être particulier autour de l'arrivée du bébé. Donc l'idée, c'est vraiment que dès le départ, la maman elle puisse avoir les bonnes infos pour se mettre dans une bonne position et démarrer des tétés dès le départ très, très facilement pour que la suite soit aussi facile. Parce que si c'est compliqué, puis on le voit bien dans les allaitements, hein, si le départ est un peu compliqué, la maman ne prend pas confiance en elle et ça peut avoir des répercussions sur la suite avec des sevrages précoces parce que c'est trop compliqué.
Oui, on reste, disons que voilà, on a un bébé qui a une difficulté en plus, mais que l'allaitement reste ce qu'il est et qu'on peut avoir d'autres problèmes surajoutés à la fente labio-palatine, en fait. Donc ça, c'est un allaitement qui doit démarrer comme les autres, où la maman elle a besoin de prendre confiance en elle, etc. Mais plus, parce que là, on a un bébé qui, en face, on le sait, sera moins efficace qu'un autre.
Tout à fait. Et surtout, ce qui est vraiment important, que ce soit et pour les parents et pour les professionnels, c'est-à-dire qu'un bébé qui naît avec une fente, s'il est né à terme en bonne santé, c'est un bébé comme les autres.
Oui, bien sûr.
On ne va pas surmédicaliser un truc qui n'a pas lieu d'être. Ça, c'est hyper important dans la prise en charge parce qu'en plus, on sait que c'est des bébés qui vont avoir des temps opératoires, des suivis particuliers qui vont déjà générer beaucoup de stress chez les parents, chez le bébé, etc. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter, quoi. On va les accompagner, voilà. Après, s'il y a de la prématurité ou autre chose, ça, c'est différent, c'est un autre contexte. Mais pour le bébé né à terme en bonne santé, il n'y a aucune raison parce que on sait qu'il peut y avoir des difficultés d'allaitement. Il n'y a pas besoin, voilà, au contraire.
Ouais, ok, je comprends très bien. Donc, très bien. Donc, au démarrage, on a un bébé qui va pouvoir présenter quelques difficultés. La solution, c'est de mettre la maman sur une lactation plus importante que ce qu'elle aurait eu avec un bébé qui tète classiquement. Et la compression mammaire, tu disais, donc pendant les tétés, de venir aider en fait au transfert de lait.
Tu avais fait une petite vidéo d'ailleurs,
ouais, tout à fait.
Sur la compression, qui est très intéressante parce que ça permet au bébé d'optimiser et la prise du sein et les entrées, quoi. Donc c'est vraiment important.
Ouais, vous la retrouvez sur les stories permanentes d'Instagram. Et puis globalement, si vous cherchez une vidéo sur internet de compression mammaire, vous allez en trouver. Parce qu'en audio, c'est un peu moins facile à expliquer. Mais c'est une chose un peu comme l'expression manuelle qui sont intéressantes en fait à voir avec un professionnel qui est formé et à l'apprendre en amont finalement d'une naissance.
Exactement, ouais. pour que la maman puisse, dès le départ, en fait, être vraiment actrice dès la salle de naissance de son allaitement et prenne les rênes, quoi. Ça, c'est important.
Ouais, ouais.
Parce que finalement, l'histoire de ce bébé, il y a plein de choses où elle va subir les temps opératoires, elle va avoir plein de choses d'imposer. Donc là, si on peut lui laisser cette liberté-là, c'est hyper important que les parents puissent gérer aussi l'arrivée de ce bébé comme ils l'entendent, tranquillement, sereinement, quoi, pour qu'ils puissent prendre confiance, quoi.
Ok. Et au niveau des positions, est-ce qu'il y en a qui sont préconisées, d'autres non ? Est-ce qu'il y a des choses à essayer ?
Alors, par rapport aux positions, l'important, mais ça, je dirais presque, c'est dans tous les allaitements, ça va être la posture de la maman. Il faut vraiment qu'elle, elle soit déjà hyper confortable.
D'accord.
Après, même dans les allaitements classiques, c'est le bébé qu'on amène vers la maman et non pas l'inverse. Et je dirais presque que à partir du moment où le bébé arrive à avoir une prise de sein correcte et un bon transfert de lait, peu importe finalement la position, peu importe la position en fait, quoi.
D'accord, donc faut en fait essayer de trouver ce qui convient le mieux. Donc si votre bébé il a l'air d'être plus confortable dans un truc qu'un autre, et vous y compris, il faut chercher. Et puis vraiment là, on est sur un sujet quand même très particulier d'allaitement, qui n'est pas non plus hyper fréquent. Donc déjà l'allaitement en règle générale nécessite une consultation à un moment pour voir, voilà, pour faire le point, pour voir si tout se passe bien, etc. Là, il me semble quand même assez indispensable que vous ayez un suivi avec un professionnel à côté qui puisse vous aider justement à trouver cette position de confort si vous ne la trouvez pas spontanément, qui puisse vous montrer la compression mammaire, qui puisse refaire le point sur tout ça et vous accompagner, parce que c'est une lactation qu'il va falloir surveiller aussi pour être sûr qu'elle soit suffisante. Enfin, ça fait un peu trop de sujets. Comme je dis toujours, quand les sujets s'empilent, restez pas seul dans votre coin avec un podcast à écouter. Là, il faut que vous ayez quelqu'un qui s'adapte à votre situation. Oui. Particulière.
Et puis les mamans ont besoin aussi en consultation d'allaitement, elles nous racontent les choses, elles posent les choses. Donc toutes ces émotions qu'elles n'ont peut-être pas pu formuler à la maternité parce qu'elles étaient dans le faire et qu'elles n'ont pas pu vraiment vider leur sac et exprimer un petit peu leur ressenti, c'est aussi un temps qui leur est donné où elles peuvent dire voilà comment je me ressens, peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'elle a peur, etc., etc. Et on part de l'arrivée de ce bébé pour donc l'allaitement c'est une partie, mais il n'y a pas que l'allaitement qui va jouer dans le suivi d'allaitement, bien sûr.
Ok, très bien. Donc au démarrage, on résume, la compression mammaire pour aider bébé, avoir vu quelqu'un être mise plutôt en hyperlactation, donc vraiment booster la lactation. Ça va être avec le tire-lait, ça va être éventuellement avec des compléments aussi, enfin voilà, à voir en fonction de la
situation.
Alors au
départ, on peut faire les premiers jours un petit peu d'expression manuelle après chaque tétée, parce qu'on sait que ça lance fort les lactations, donc ça c'est vraiment chouette. Et quand ça coule un petit peu plus, là on peut mettre un petit peu le tire-lait en plus après les tétées.
Ok, très bien. Des compléments alimentaires à prendre ? Pas nécessairement, on voit comment ça se passe.
Pas nécessairement, ouais. Okay. Et après, je rajouterai dans ce qui est extraordinaire, c'est le pot à pot. Alors, le pot à pot, c'est extraordinaire pour tous les bébés et les parents, mais là, encore plus. Et notamment, je dirais presque en salle de naissance où les parents, lorsqu'on leur annonce en fait que ce bébé a une fente, les parents ont beaucoup, beaucoup d'appréhension parce que c'est la crainte de ne pas l'aimer, c'est la crainte de ne pas le trouver beau, c'est la peur, etc. Donc, ils ont besoin vraiment d'un temps d'adaptation. Donc là, tous les parents ont besoin d'accueillir leur bébé en pot à pot, mais là, encore plus, qu'on les laisse un peu tranquilles pour que les parents puissent regarder leur bébé, le toucher, lui parler, etc., l'accueillir vraiment, où ça, c'est très, très important pour la confiance, pour l'attachement, pour tout ça,
pour
c'est
le
très,
lien.
Très important.
Ok, très bien, donc l'augmentation de la lactation, et au niveau des positionnements, c'est ce qui vous convient, ce qui convient le mieux à votre bébé, et ça, c'est fonction des cas. Ok, une fois que cette première phase de démarrage d'allaitement, on va dire, est passée, on sait que c'est des bébés qui vont avoir tout un parcours médical, puisque, oui, voilà, si on ne l'avait pas dit avant, mais c'est des bébés qui vont nécessairement avoir une ou des opérations chirurgicales pour refermer cette fente qui s'était créée. Alors, comment ça se passe ensuite? Est-ce qu'il y a un parcours classique pour ces bébés? Et comment on va se dépatouiller de l'allaitement au milieu de tout ça?
Alors, en fait, dans les prises en charge chirurgicales, il n'y a aucun consensus. C'est-à-dire que chaque chirurgien va avoir ses propres protocoles. D'ailleurs, pour vous donner une idée, en Europe, il y avait sur 201 centres qui avaient été interrogés sur les différents protocoles pour la prise en charge des mêmes types de fentes, il y a 194 protocoles différents.
Ah oui, quand même. Ah oui, on n'est pas sur...
C'est-à-dire que si on se fait opérer à Strasbourg, à Nice ou à Bordeaux, c'est des protocoles différents.
D'accord.
Donc ça, ça peut être aussi compliqué dans la prise en charge des parents, parce que les parents peuvent se poser la question, ben, pourquoi cette différence? Est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre? Donc ça aussi, c'est des fois très différent.
Bien sûr.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Des fois, on fait en fonction du CHU de notre région, mais des fois, il y a des mamans qui traversent la France parce que justement, il y a des temps opératoires qui peuvent être plus tôt, notamment, je pense, au niveau de la lèvre. Donc, nous, dans le secteur, les bébés sont opérés sur le CHU de Poitiers et le chirurgien pédiatrique, il opère très, très tôt au niveau de la lèvre. Sur d'autres centres, ben, l'intervention de la lèvre, elle peut se faire à 3 mois à 6 mois. Donc, il y a des parents qui ont besoin de réparer la lèvre vite pour un point de vue émotionnel, pour l'attachement, pour pouvoir sortir à l'extérieur par rapport au regard de l'autre, en fait. Et ça, ça peut être très compliqué d'accepter de sortir avec un bébé qui n'a pas eu d'intervention au niveau de la lèvre. D'accord. Ça, c'est très dur pour les parents de présenter leur bébé, etc. Donc, des fois, les parents, ils vont préférer choisir un protocole où l'intervention va être rapide au niveau de la lèvre. Donc voilà, le tout, l'important, il n'y a pas de meilleur protocole. L'important, c'est d'être à l'aise avec son chirurgien, puisque c'est un médecin qu'on va voir de la naissance jusqu'aux 25 ans de l'enfant, voire plus.
Oui.
Donc il faut avoir confiance en lui, il faut se sentir complètement à l'aise avec les différents temps opératoires, comprendre un petit peu ce qu'il propose, etc. On a le droit d'aller voir pendant la grossesse différents chirurgiens pour prendre des informations. On n'est pas obligé, il n'y a rien qui oblige d'aller se faire opérer dans le centre
à côté, ouais,
de référence de la région. Hein, c'est pas, voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose, d'être vraiment hyper à l'aise avec ça.
Parce qu'en fait, c'est quoi qu'il arrive, des opérations qui se passent en plusieurs fois. Alors j'imagine que si c'est par exemple juste la lèvre... Si c'est juste la lèvre, ça peut être en une fois, j'imagine.
Oui.
Mais sinon, c'est toujours en plusieurs temps.
Toujours. En général, par exemple, pour reprendre le protocole de Poitiers que je connais bien, il va y avoir un premier temps presque dans la première semaine de vie où on va réparer la lèvre. Vers 6-7 mois, on va réparer le palais. Après, entre, on va dire, 12 et 3 ans en fonction de l'enfant et toujours pareil des différents types de fentes, on peut reprendre des choses au niveau de l'esthétique, par exemple au niveau d'une cicatrice, au niveau de l'aile du nez. Vers 4-5 ans, on peut avoir aussi, s'il y a besoin, une greffe osseuse aussi. Et après, au fil du temps, en fait, ça va dépendre aussi de comment réagit l'enfant par rapport à la fonctionnalité de sa bouche, de la respiration, du voile, de la déglutition, de tout ça, quoi. Ça va vraiment dépendre de aussi, hein, parce que là, on parle d'allaitement, mais après, il peut y avoir évidemment des conséquences au niveau de la diversification alimentaire, de l'apprentissage des solides avec l'introduction des morceaux, etc. Y a tout, donc, en fait, tout va dépendre un petit peu de comment évolue l'enfant. Donc, évidemment, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, hein, puisque... il va y avoir des ORL dans la boucle, des orthophonistes pour rééduquer, des orthodontistes après dans la voilà, il peut y avoir vraiment...
Ouais, mais puisqu'on y est, parlons de... des éventuelles conséquences à plus long terme, ouais, de ces fentes labiopalatines. Qu'est-ce que ça peut engendrer chez ces bébés et enfants qui grandissent et adultes?
Ben souvent, là, donc on parlait de l'orthodontie, souvent comme le palais va être cicatriciel, donc souvent c'est des palais qui ne grandissent pas suffisamment, donc on va venir travailler un petit peu la croissance de ce palais. Ouais. Donc souvent ils ont un articulé inversé, c'est-à-dire que le palais, normalement on a notre, quand on ferme la bouche, on a nos dents qui passent par-dessus celles des dents du maxillaire inférieur, et bien souvent c'est l'inverse du fait de cette croissance qui ne s'est pas fait correctement. Donc voilà, donc on va venir travailler ça, on va travailler l'alignement des dents, on peut travailler la fonctionnalité de la langue. Le voile aussi, les orthophonistes, elles travaillent beaucoup le voile, la déglutition, toutes ces choses-là. Et évidemment, la parole.
Ouais.
Parce qu'on peut avoir c'est des personnes qui peuvent nasonner un petit peu.
Et oui.
Du fait qu'il y ait une...
Ben oui, une communication.
Tout à fait.
Ouais, tout à fait. Donc du coup, au niveau orthodontie, au niveau langage, phonation... Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors bébé dans la diversification, tu nous disais juste avant.
Oui, parce que ça peut être des bébés qui ont du mal, qui ont un petit peu une sensibilité du fait des tissus un petit peu cicatriciels au niveau du palais. Mmh. Donc il peut y avoir aussi des problématiques.
Ok. D'autres conséquences à terme ou pas?
Non, en général tout va, après avec le temps. Et après, des fois, il y a des ados, parce que des fois, dans les interventions, ils laissent un espace, en fait. Des fois, c'est pas ressoudé complètement, ou des fois, il y a des cicatrices qui peuvent lâcher un petit peu. Mm-hmm. Donc, des fois, il peut y avoir des petites choses comme ça, et des fois, des enfants qui se retrouvent avec des fuites dans le nez, quoi.
D'accord, ok.
Mais les prises en charge ont évolué par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans.
J'imagine que ça ne fait que s'améliorer, ouais.
Les séjours sont plus courts, la prise en charge de la douleur est vraiment qualitative, on rentre vite à la maison, enfin voilà, c'est...
Ok. Donc justement, par rapport à ces prises en charge chirurgicales, est-ce que, on sait que voilà, le monde médical n'est pas toujours hyper bien renseigné sur l'allaitement, est-ce qu'il y a des protocoles dans lesquels ça pose problème que les femmes allaitent, ou est-ce que globalement maintenant c'est accepté et que c'est pris en compte?
Alors, malgré tout, même si au niveau de l'allaitement, il y a encore du travail, les chirurgiens pédiatriques, quand même, ils conseillent fortement aux parents d'allaiter, quand même.
Okay.
Hein, quand même, c'est... voilà, parce qu'on se rend compte quand même que il y a quand même une plus-value, etc. Mais après, dans certains protocoles chirurgicaux, notamment quand il y a une intervention au niveau du palais, des fois, le bébé, pendant 3 semaines, il peut ni avoir de sein, ni avoir de tétine, ni rien avoir au niveau de la bouche.
Ouf.
Pour pas que ça aille, que ça intervienne sur les sutures.
Ah, oui.
Après, mais ça, c'est mon avis, hein, je ne pense pas qu'un sein puisse abîmer des sutures.
Ouais.
Parce que... Déjà, du fait de l'anatomie et que le bébé n'a pas appris à avoir une forte aspiration, je ne pense pas que même en refermant un palais, du jour au lendemain, il arrive à être... mais ça n'engage que moi.
En tout cas, il y a certains protocoles qui imposent ça et pas d'autres. Alors que les sutures sont les mêmes, a priori, d'un endroit à l'autre, c'est ça?
Donc ça, c'est des choses que les parents, quand ils rencontrent pendant la grossesse les chirurgiens, ils peuvent poser comme question. Est-ce que après la chirurgie, dès que mon bébé sort du bloc, est-ce que je peux le refaire téter?
Oui.
Tout de suite. Alors pour la lèvre, ça pose jamais aucun problème. En général, voilà, ça pose pas de problème. C'est surtout après pour le palais. Donc après, ça, c'est des choses aussi qu'on peut évoquer avec le chirurgien en disant, ben voilà, moi. Je trouve ça difficile de ne pas pouvoir le mettre au sein, etc., etc. Donc voilà, donc en général, dans le post-op, eh ben les bébés, ils peuvent être nourris donc à la pipette, à la seringue, au flan de lait, aux glaces de lait, etc., mais pas de tétine et pas de sein.
Oui, pour certains protocoles. Mais du coup, ça peut être aussi un critère de choix d'un protocole et d'un chirurgien par rapport à un autre si on allaite, j'imagine.
Tout à fait. C'est pour ça que des fois, il y a des mamans qui traversent la France pour avoir spécifiquement une prise en charge.
Bah oui, j'imagine. Ouais, ça fait tout un truc. Ok. Mais donc, sur le papier, il y a certains protocoles dans lesquels l'allaitement peut être tout à fait continué de la même façon avant, juste après opération, etc.
Tout à fait.
Ok. Est-ce qu'il y a des bébés qui ont de telles fentes labio-palatines qu'ils ne vont vraiment pas pouvoir être au sein?
Alors, ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a une absence totale de palais. Où là, effectivement, ça peut être très très compliqué pour essayer d'avoir un petit peu de lait au sein. Ça peut être vraiment très très compliqué. Et c'est là où rentre en compte la place vraiment de la consultante pour vraiment accompagner cet allaitement, puisque, alors ça n'empêchera pas la maman de faire plein de peau à peau, d'avoir son bébé au sein, mais à côté de ça, va falloir qu'elle mette le tire-lait et qu'elle donne du lait autrement.
Oui, bien sûr. Ah oui, il va falloir passer par d'autres contenants. Okay.
Parce que là, c'est vrai que c'est... autant quand il y a juste une fente palatine, on peut arriver... Et puis le sein est malléable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre plein de sein en bouche. Donc, c'est facile. Quand il y a vraiment absence du palais, qu'il y a vraiment une communication entre les fosses nasales et la bouche, c'est vraiment ces types de fentes qui sont un peu embêtantes. Quoi.
Comment se nourrissent ces bébés, finalement? Parce que j'imagine, enfin, je réfléchis par exemple au biberon. Au biberon, faut quand même, il y a quand même un mouvement à faire, tu vois, en bouche, et la communication, elle est quand même là. Comment ils s'en sortent?
Et bien après, on va essayer en fait de positionner le biberon, par exemple, sur une côté de la gencive pour que le bébé puisse faire une pression. Et c'est là où on peut effectivement introduire les biberons cup.
Ah oui.
Où du coup, le bébé va utiliser sa langue en fait. Ah oui, mais d'accord. Parfois, on peut avoir une fonction de langue qui est un peu juste et que le bébé n'arrive pas à bien mobiliser sa langue. Donc, des fois, ça peut être aussi compliqué. Donc là, c'est un vrai apprentissage et un vrai défi pour les parents d'arriver à être vraiment autonome dans l'alimentation.
Ouais, j'imagine, parce qu'en effet, on a le droit de cumuler les problèmes. On a le droit d'avoir un bébé avec une fente labio-palatine et une fonction de langue qui n'est pas terrible.
Tout à fait.
Et là, ça ne va pas. Et donc justement, pour ces bébés qui ne peuvent pas prendre ni biberon ni le sein, parce que la succion ne fonctionne pas, quel contenant tu vas pouvoir préconiser
en dehors de... Alors par exemple, on va repartir un peu à la maternité, ça va être la petite cuillère, de mettre une petite cuillère dans son sac. Mais ça, je dirais que c'est presque pour toutes les mamans aussi. Mais une petite cuillère, ce qui fait qu'au départ, dans la période colostrum, la maman, elle va pouvoir exprimer son colostrum et donner quelques millilitres à son bébé. Voilà. Après, quand la quantité de lait va augmenter et que les besoins du bébé vont augmenter, on peut faire à la petite, à la seringue. Et il existe même des petits embouts en silicone qui se clipent sur la seringue, ce qui fait que la maman ou le papa va donner l'index au bébé à téter. Et puis, dans la commissure de la lèvre, on va glisser cette petite seringue avec l'embout. Et ce qui fait que là, le bébé, en tétant, il va obtenir un petit peu le lait de la seringue. Donc ça peut être...
Et il entraîne quand même un petit peu sa succion, du coup.
Exactement. Donc ça peut être intéressant. Il peut y avoir aussi également donc ce fameux biberon cuillère, cette petite cup, une petite tasse aussi. Et la tasse, ça marche très très bien pour les bébés. Alors ça nécessite un apprentissage. Et parfois, les professionnels des maternités sont pas formés pour donner à manger à la tasse, et encore moins dans le cas d'une fente. Parce qu'il y a ces deux problématiques-là, et ça peut compliquer un petit peu. Donc, parfois, vite, on dirige les parents vers des biberons classiques. Comme ça, voilà, on s'assure que le bébé mange, et voilà. Ce qui fait que, des fois, les parents, ils basculent vite sur un tire-allaitement donné au biberon, et dans le temps, avec les différents rendez-vous opératoires, les choses comme ça, c'est des allaitements qui, des fois, durent pas trop dans le temps, parce qu'il y a un manque de soutien et puis d'organisation. Et puis, ce qui va fonctionner à un moment dans la vie de l'enfant peut ne plus fonctionner, ce qui va pas fonctionner peut fonctionner. Donc, des fois, la situation évolue tellement que c'est pour ça que c'est des allaitements qui sont à suivre au long cours, quoi.
Ouais. Donc, tu parlais de la seringue, là, avec le petit embout le long du doigt, ce qui reviendrait à faire du dalle au doigt aussi, en fait, c'est ça?
Aussi, ouais. Tout à fait.
Ok, c'est la même chose.
aux dalles, on va être obligé soit d'appuyer sur le contenant, soit de pousser un peu, parce qu'on va avoir hein, toujours ce même problème où l'aspiration va être un peu faible, quoi.
D'accord. C'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est des bébés qui font plus de fausses routes que les autres ?
Pas forcément.
Non, parce que c'est vraiment une question de communication avec le nez, mais en termes de déglutition, c'est une autre affaire.
Pas forcément, parce que le bébé, il peut très bien avoir une fente et une super déglutition, parce que finalement, sa langue, elle fonctionne bien, quoi.
Ok, très bien, d'accord. En post-opératoire, j'imagine que c'est des bébés qui ont des douleurs, etc., enfin, qui ont subi une anesthésie générale, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à suivre quand on allait pour accompagner ce bébé ?
Alors déjà, les études sur le sujet par rapport à l'allaitement, on sait que des bébés allaités lors d'une intervention, pas spécifiquement les fentes, ça va faire des séjours plus courts parce que c'est des bébés qui vont être moins douloureux aussi. Donc on va faire aussi pas mal de peau à peau, faut pas hésiter quoi. Et le peau à peau, on n'a pas à demander l'autorisation, c'est-à-dire qu'on peut prendre son bébé et on le met en peau à peau, hein. On s'installe, etc., etc. Ça faut pas hésiter. Puis même si les équipes le proposent pas, on peut dire à l'équipe, voilà, moi j'aimerais faire du peau à peau, puisque le peau à peau, on sait que ça diminue la douleur aussi chez le bébé. Donc en post-op, c'est formidable. Ça permet tout le monde d'être ensemble, d'être rassuré, de faire redescendre un petit peu le stress et de venir remettre un petit peu d'ocytocine, un peu de cocooning. Dès que la réalimentation est possible, eh ben on va essayer évidemment les mises au sein. Et puis, lorsqu'on a des cicatrices au niveau de la bouche, ça va être bien plus apaisant et rassurant un sein tout chaud avec l'odeur du lait qu'on connaît, etc., que quelque chose en caoutchouc, etc.
Ouais.
Donc, ça va vraiment avoir son importance aussi. Et puis, les séjours sont vraiment relativement courts, hein, c'est-à-dire que rapidement, à partir du moment où le bébé se réalimente, qu'il n'est pas douloureux, hop, on peut rentrer. Hein.
Ouais, on rentre à la maison. Très...
Donc ça, c'est important aussi de ne pas passer longtemps, surtout quand il y a d'autres enfants à la maison. On est mieux chez soi, quoi. Et après, pour rebondir aussi tout à l'heure par rapport à ce passage de lait dans les fosses nasales, l'avantage que ce soit du lait maternel, c'est que c'est pas du tout irritant. Donc même s'il y a un peu de lait qui vient dans le nez, et ben c'est ok. Hein. On fait même des lavages de nez au lait maternel.
C'est ce que j'allais dire.
Donc,
ouais.
C'est vraiment pas un souci cette histoire de fuite.
Non, c'est juste impressionnant et c'est enfin.
Tout à fait.
Même sans histoire de fente palatine, je pense qu'on a tout eu à un moment un bébé qui ressort sur un petit reflux du lait par le nez. Oui. Bon, c'est jamais agréable à regarder, mais en fait, c'est pas grave, quoi. Une fois que c'est sorti, d'ailleurs, c'est bon. Et en effet, le lait maternel, mieux vaut avoir du lait maternel que du lait de vache dans le nez, quoi, finalement. Ok, si jamais il y a des mamans qui ont besoin de soutien, d'accompagnement, vers quoi elles peuvent se tourner ? Est-ce qu'il y a des groupes qui parlent de ces sujets-là et qui pourront être des retours d'expérience pour elles ? Est-ce qu'il y a des associations ? Enfin, vers quoi elles peuvent se tourner si elles ont envie d'échanger ? Parce que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, mais si elles ont besoin d'avoir des témoignages similaires.
Alors oui, effectivement, il y a des groupes sur Facebook où les parents peuvent échanger, témoigner, partager des expériences, des différents protocoles aussi. Entre eux, et il y a également aussi des associations pour les professionnels, notamment je pense à Tête Cou,
ouais.
où ça va être toutes les problématiques autour de la tête et du cou, et les fentes, la biopalatine en font partie.
Ouais.
Donc là, il peut y avoir des infos qui peuvent être intéressantes, et je pense même qu'ils doivent faire de la formation ou.
Ok. Voilà. D'accord. Pour les pros qui souhaitent se renseigner sur le sujet, est-ce que tu as un truc à conseiller ?
Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément très courant dans les formations, mais je pense qu'on doit en trouver. Il me semblait que Véronique Darmangeal, l'année dernière, avait fait une thématique,
oui.
Un module de formation à ce sujet.
D'accord.
Et j'y travaille.
Et tu y travailles. Bon, très bien. Donc, bientôt, il y aura quelque
Donc,
chose.
Donc, bientôt, il pourrait y avoir un petit truc à ce sujet.
Ok, super. Donc, on te suit si on a besoin d'infos de ce côté-là. Ok, très bien. Est-ce qu'on s'est tout dit, tu penses, Julie, sur les fentes labiopalatines et comment les accompagner? On se rend bien compte que ça va être du cas par cas et que voilà, là, on essaie juste d'avoir la compréhension de ce que c'est, des éventuelles conséquences et de comment, dans les grandes lignes, on va l'accompagner. Mais voilà, l'importance de se faire accompagner derrière. Mais est-ce que tu penses que là, on s'est dit ce qui était important pour que les mamans comprennent?
Oui, on a déjà dit pas mal d'informations. Après, ben encore, voilà, ça va être vraiment de se faire accompagner pour pouvoir être soutenue vraiment dans son projet. Que c'est pas parce que on nous annonce ça qu'il faut revoir notre projet d'allaitement. Au contraire, ouais. Parce que cet allaitement, il va prendre un tout autre sens.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc se faire aider, parnoncer à son allaitement et voilà. Et je reste disponible si moi il y a des professionnels ou des parents qui souhaitent des informations à ce sujet.
Oui, là, ça peut vraiment être intéressant d'avoir des gens en doublon. C'est un sujet très spécifique et ça n'enlève rien. Ben, encore une fois, c'est un allaitement classique sur lequel vient se rajouter une problématique de fente labiopalatine. Et donc, voilà, ça peut toujours être intéressant d'avoir deux personnes qui travaillent de concert pour nous accompagner au mieux. Ok, très bien. Bah écoute, super. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces infos sur les fentes labiopalatines. C'est un sujet qui est pas évident, mais qui est quand même assez fréquent, hein, finalement. Donc, c'est à prendre quand même en compte. Et puis voilà, on note l'importance aussi pour ces bébés-là d'être allaités, alors que ça rajoute une difficulté. Donc ça doit être un peu compliqué pour les mamans au démarrage. Et puis je sais pas, si on n'a pas nécessairement le projet d'allaitement, mais qu'on se dit que c'est mieux, est-ce que c'est pas parfois un facteur qui nous fait dire « Allez, bah, j'essaye quand même », etc., alors que c'est plus compliqué. Enfin, voilà, ça mérite accompagnement, donc c'est cool d'avoir pu déjà un petit peu débroussailler ce sujet avec toi. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis si jamais vous êtes concerné, ben voilà, faites-vous accompagner. Comme elle vous le disait, il y a des groupes autour de tout ça. Prenez des témoignages, puisqu'on aura entendu aussi qu'au niveau prise en charge, c'est très très différent d'un endroit à l'autre. Et sentez-vous libre de vous renseigner et de voir ce qui vous convient le mieux en fonction du projet allaitement et autres que vous avez. Ok. Super. Merci beaucoup, Julie. Je te dis à très vite.
Merci, Charlotte.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez. Et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.